Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette rubrique éphéméride de l'émission Un jour dans l'histoire, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Lalou. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Vous êtes historien et auteur entre autres d'une biographie de Napoléon III parue chez Bernard Giovannangeli. Voilà, j'ai toujours un peu de mal, je me rends très bien. Dont la première version d'ailleurs en 2005 reçut le prix Alfred Verdaguer de l'Académie française.
C'est en réalité la version publiée en 2004 qui a reçu le prix effectivement en 2005, le prix Verdaguer. Et elle avait connu une petite réédition légèrement augmentée en 2006. Et donc la nouvelle édition, qui est donc sortie mi-mars, est largement augmentée, effectivement, puisque le texte a été pratiquement doublé.
Parfait. Vous aviez même reçu une autre récompense, je crois, de l'Académie.
Alors j'ai reçu, effectivement, au titre de l'encouragement à la création littéraire et pour l'ensemble des travaux, et essentiellement pour un Dumas paru chez le même éditeur en 2006, le prix Motard de l'Académie française également.
Donc aujourd'hui, vous êtes au micro de Canal Académie pour fêter un anniversaire, les 200 ans de la naissance, je dirais presque, de votre héros, Louis-Napoléon Bonaparte, donc premier président de la République en France et futur Napoléon III, et donc né... enregistré, en tout cas, le 20 avril 1808, parce que vous me disiez donc à l'instant...
Qu'en fait, il est né dans la nuit du 20 au 21, très certainement à 1h du matin, dans la nuit du 21 avril 1808, effectivement.
Alors, Napoléon Ier est alors au sommet de sa puissance. Se soucie-t-il de l'avenue au monde de ce troisième fils de son frère Louis ?
Très absolument. Il y a plusieurs lettres qui en témoignent. Il est à ce moment-là à Bayonne, préparant ce qu'on a appelé le fameux guet-apens.
Je renvoie nos auditeurs d'ailleurs à une émission éphéméride sur le guet-apens de Bayonne.
Voilà. Et il a écrit immédiatement, dès qu'il l'a su, à Hortense, mère du nouveau-né, de manière extrêmement chaleureuse, deux lettres successives. Et surtout, ayant appris la naissance, il a fait tirer au canon sur toute la frontière d'Espagne, de France et d'Espagne, pour commémorer ou marquer cette naissance. Parce que c'était l'un des premiers princes français qui naissait pendant son règne.
C'est donc le troisième fils de Louis et Hortense, donc Louis, frère de Napoléon, roi de Hollande, et Hortense à la fois belle-fille et belle-sœur de Napoléon.
Oui, puisqu'elle est la fille de Joséphine. Mais c'est effectivement le troisième enfant. C'est en fait le second vivant, parce qu'il a perdu un frère aîné qui était né en 1802 et qui est mort en 1807. Et c'est à l'occasion de la mort de ce frère aîné qu'il n'a pas connu que les deux époux, qui avaient des relations extrêmement compliquées, se sont rapprochés finalement, et Louis-Napoléon, Bonaparte...
Au départ, je crois que Napoléon écrit et félicite Hortense en lui conseillant les prénoms de Charles-Napoléon. Louis sera...
Surtout de Napoléon, oui, effectivement, et donc... En réalité, tout le monde l'appellera Louis, d'ailleurs, même beaucoup plus tard. Donc, ses prénoms exacts sont Charles-Louis-Napoléon. Et il est donc né à Paris, dans l'hôtel de Saint-Julien, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rasé à la fin du XIXe siècle, dans l'actuelle rue Lafitte, ex-rue Cerutti. Et il a eu comme voisin le redoutable Fouché. Mais contrairement à ce qui a longtemps été affirmé, il n'est pas né aux Tuileries.
D'accord. Je crois que la naissance, d'ailleurs, a été un peu précipitée.
La naissance s'est passée dans des conditions extrêmement curieuses. C'est-à-dire que Hortense Bonaparte était en réalité invitée à une fête d'enfants chez Caroline Murat. Ce soir-là, elle était déjà dans un niveau de grossesse avancée et elle a été émue et bouleversée par le chahut de quelques danseurs Et donc, elle est rentrée précipitamment chez elle, sentant qu'elle allait accoucher. Et pour l'aspect anecdotique de la chose, on peut dire que la naissance de Charles-Louis Napoléon a été placée sous le signe des sangsues de Cambacérès et de la poudre de Talleyrand, puisque l'archichancelier Cambacérès était mal portant ce soir-là. Voyant la reine Hortense en soirée chez Caroline Murat, il a pensé qu'on ne l'appellerait pas pour une naissance précipitée. Et comme il était mal portant, il était rentré chez lui se faire appliquer des sangsues. Il est d'ailleurs arrivé en catastrophe et dit Hortense dans un état qui prêtait à rire pour couper le cordon car on attendait que lui. Et par contre, la poudre de Talleyrand, car comme c'était son habitude, il était abondamment poudré de perruques et fardé quelque peu. Et l'odeur qui s'en dégageait était extrêmement forte et prenante, ce qui fait que Hortense s'est sentie très mal à l'aise et qu'elle a même eu peur pour son enfant, qui est né donc prématuré, effectivement, et qui est né dans un état de faiblesse très fort, puisqu'on a dû lui pratiquer une sorte de bouche à bouche. On l'a baigné dans du vin et on l'a mis dans du coton, et on pensait qu'il ne survivrait guère.
Donc le fait que cet enfant soit déclaré né avant terme est un détail qui n'est pas anodin finalement, puisque beaucoup de rumeurs courent autour de sa filiation, donc on va en parler.
Alors rumeurs, oui, qui ont été d'ailleurs largement utilisées plus tard par ses adversaires familiaux ou politiques, et surtout politiques, notamment après le coup d'État. Ça va de Victor Hugo, qui ne s'en prive pas, jusqu'à Alexandre Dumas, qui plaisamment fait courir dans les salons de la princesse Mathilde toute une série de petits quatrains et d'épigrammes désagréables, mais drôles, sur la question. Louis Bonaparte en a lui-même probablement douté au moins un temps, et probablement il a tort. Et il a d'autant plus tort qu'il a eu, bien plus tard, vous savez qu'il était plutôt mal portant, hélas, du point de vue de sa santé. Et il a eu plus tard, en 1826, un enfant, qu'il a d'ailleurs titré comte de Castelvecchio, et qui ressemble très nettement à Charles-Louis Napoléon, donc au futur Napoléon III, et qui ressemble par ailleurs à son père. Donc je ne pense pas qu'on puisse douter, bien qu'on ait prêté plusieurs pères possibles au futur Napoléon III, qu'on puisse douter de cette filiation.
D'accord. Et d'ailleurs, Napoléon III lui-même n'a jamais douté de sa filiation.
Non. Il a parfois considéré son père davantage comme un tuteur que comme un père, car il en avait quelques craintes et le caractère de Louis était difficile. Mais il n'a pas douté que ce fût son père. Ça, je ne pense pas, le moins du monde.
Et Louis se sent finalement plus proche de son deuxième fils que de Louis-Napoléon.
Absolument. Mais, et je crois que ça mérite d'être souligné, on a beaucoup dit, et il a parfois lui-même dit qu'il avait épousé une messaline qui accouchait, que Louis-Napoléon n'était probablement pas son fils. Cela dit, lorsque les deux frères sont engagés en Italie en 1831 dans les péripéties que l'on sait qui se terminent pour l'un dramatiquement à Forli, il écrit à l'un de ses émissaires corses de s'entendre avec la reine Hortense, d'aller chercher une somme d'argent en Italie et de sauver le dernier fils qui lui reste. Ce qui, par conséquent, tendrait à prouver que malgré tout, il considérait que c'était bien son fils. Par ailleurs, au moment de la naissance même, ou très peu de temps après, il avait demandé à sa femme que le petit enfant soit ondoyé pour être ensuite baptisé très officiellement à La Haye, de manière à l'inscrire donc officiellement aussi dans la succession possible du trône de Hollande, ce qui tendrait à prouver aussi que, de ce point de vue-là, il tendait à penser quand même que la filiation était légitime.
Alors, d'ailleurs, en effet, Louis-Napoléon n'est pas baptisé à sa naissance, il est juste ondoyé, comme vous venez de le dire.
Par le cardinal de Bellois.
Et il sera baptisé en 1810.
À Fontainebleau.
Fontainebleau, et il aura pour marraine Marie-Louise, ce qui peut paraître étrange quand on sait que c'est le petit-fils de Joséphine, mais enfin.
C'est exact. Il ne faut pas oublier, si je ne m'abuse, qu'Hortense doit être sinon, oui, je crois, la marraine du roi de Rome, si ma mémoire est bonne. Ce baptême impérial, enfin, si j'ose dire, princier, de novembre 1810, du 4 novembre, est l'occasion aussi de baptiser une vingtaine d'enfants de hauts dignitaires de l'Empire et de l'armée impériale en même temps. Donc, c'est une journée particulièrement faste.
Mais à sa naissance, Louis Bonaparte occupe-t-il une place importante dans la succession impériale ?
Oui, du moins jusqu'à la naissance du roi de Rome, justement. Il est l'un des héritiers possibles, sinon probables, mais du moins très possibles, du trône de son oncle.
Merci Raphaël, nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Academy. Je renvoie nos auditeurs à votre biographie de Napoléon III, rééditée donc en mars, toujours chez Bernard
Giovanangeli.
Voilà, vous me facilitez
donc,
la tâche.
Napoléon III ou l'obstination couronnée.
Merci, au revoir.
Merci
et à
beaucoup.
Très bientôt pour une nouvelle émission.